Je vais maintenant vous présenter Georges Vigarello. Donc Georges Vigarello est né le 16 juin 1941. Il est sociologue. Il est professeur à l'Université de Paris 5. Il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, co-directeur du CETSA, laboratoire CNRS en sociologie, et il est membre de l'Institut universitaire de France. Concernant ses diplômes, il est donc diplômé de l'agrégation de philosophie, une thèse d'état S-lettres et diplômé du CAPES en éducation physique. Concernant ses publications, donc, il a publié plusieurs ouvrages, notamment « Le corps redressé, histoire d'un pouvoir pédagogique » chez Delarge en 1978, « Le propre et le sale, l'hygiène du corps depuis le Moyen-Âge » au Seuil en 85, « Une histoire culturelle du sport, technique d'hier et d'aujourd'hui » Robert Laffont en 88, « Le sain et le malsain, santé et mieux être pardon, depuis le Moyen-Âge » au Seuil en 93, « Histoire du viol » au Seuil en 98, Passion, sport, histoire d'une culture, chez Textuel en 2000, et du jeu ancien aux shows sportifs, la naissance d'un mythe, au Seuil en 2002. Concernant ses prix, en 1998, il a reçu le prix Malesherbes, histoire de la justice, et en 1997, le prix Scritture d'Aqua, art et sciences de la ville de Parme, en Italie. Georges Vigarello, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons une question-réponse avec le public. Je vous remercie.
Merci bien. Bah, écoutez, merci, c'est un double plaisir de me trouver devant vous. Le premier, parce que l'Université de tous les savoirs se déroule dans l'Université de Paris 5, qui est mon université, donc j'ai ce sentiment un peu étrange d'être à la fois l'hôte et l'invité. Et le second, plus important, vous vous en doutez, c'est parce que l'Université de tous les savoirs consacre depuis plusieurs semaines une réflexion sur le thème du sport. Or, j'ai le sentiment que le thème du sport aujourd'hui, je vais essayer de le montrer, mais d'autres avant moi l'ont fait dans cette enceinte, j'ai le sentiment que le thème du sport aujourd'hui est non seulement devenu beaucoup plus important qu'il ne l'était, mais il est devenu surtout plus révélateur de notre société qu'il ne l'était. C'est à ce thème que je vais chercher à m'attacher durant cet exposé. J'aurai quelques préalables avant d'aborder mon propre plan. Premier préalable, le constat que la réflexion sur le thème du sport s'est considérablement accentuée ces dernières années, à un point tel que plusieurs maisons d'édition ont des collections sur ce thème. Je pense par exemple au Puch, Armand Collin, Vigo, Chiron, j'arrête. La deuxième chose, c'est la présence massive de cette pratique, que l'on voit à travers une multiplicité d'exemples. Je ne les épuiserai pas tous, évidemment, j'en citerai simplement deux ou trois. Le premier, c'est que les licenciés dans les disciplines sportives, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à une fédération, ceux qui sont dans les institutions, sont aujourd'hui au nombre de 14 millions, si on prend les personnes qui sont entre une dizaine d'années et plus âgées. Le deuxième constat concernant ce nombre, c'est la présence médiatique du sport, qui est tout à fait étonnante, puisque, par exemple, en 1968, 232 heures année étaient consacrées au sport. En 1999, c'est 10 fois plus, 2389 heures. Vous constatez aussi, concernant les médias, qu'il vous arrive le matin d'allumer le poste et de constater que la première information donnée, ce qui, je ne vous le cache pas personnellement, m'étonne de façon assez tranchée, la première information donnée est une information sportive, dans bien des cas. Troisième catégorie d'exemples sur cette présence massive, le Mondial l'a montré, si vous voulez. Le Mondial l'a montré, alors je ne veux pas multiplier les exemples, mais le Brésil qui gagne voit dans son pays se démultiplier la vente des drapeaux, voit se démultiplier des mises en scène auxquelles nous sommes maintenant habitués, parce que nous les voyons toujours à la télévision, mises en scène qui portent sur le fait que les couleurs s'inscrivent sur la peau, sur les visages, les couleurs du pays, j'entends, s'inscrivent sur les ongles, etc. Et toujours dans cet exemple du football et du mondial, on voit comment un certain nombre de pays travaillent véritablement leur identité à travers la façon dont est perçue leur équipe sportive. Alors ça, pour moi, je ne vous le cache pas, c'est vraiment un objet d'interrogation. Donc j'aurai quelques hypothèses à cet égard, que je présente rapidement, sur lesquelles je reviendrai bien entendu. Il me semble que ce qui est important, si vous voulez, c'est que le sport traduit au fond certains changements de nos sociétés. Moi, c'est ça que je trouve très important. En particulier, je trouve qu'il traduit assez bien le fait que nos sociétés deviennent assez fortement, pas du tout uniquement, mais assez fortement, des sociétés de l'image et des sociétés de divertissement. Je trouve, deuxièmement, que le sport porte un certain nombre de valeurs, des valeurs collectives sur lesquelles il faut s'interroger, qui renvoient à des valeurs identitaires, qui renvoient à des valeurs de dynamisme fantasmé ou réel. Et puis, troisièmement, je crois qu'il travaille très fortement le statut du corps dans nos sociétés, et qu'en particulier, il montre comment, beaucoup plus qu'auparavant, les identités des uns et des autres, c'est-à-dire pas seulement les identités collectives, mais les identités individuelles, passent par des repères corporels, et en l'occurrence ici, par des repères sportifs. Alors la première question qu'on ne peut pas ne pas se poser, c'est, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on entend par sport, bien sûr. Je sais bien que ceux qui m'ont précédé ont posé évidemment ce type de questions, j'y répondrai à ma manière, j'y répondrai de deux façons. D'abord, en constatant qu'il y a une définition large qui, dans une certaine mesure, ne veut pas dire grand-chose, mais que je présenterai parce qu'on ne peut pas ne pas le faire. C'est celle qui est utilisée, par exemple, par le Conseil de l'Europe dans un livre dont je m'inspire un tout petit peu, qui s'intitule « Le rôle du sport dans la société », qui est mimétique par rapport au titre de ce que je vais dire aujourd'hui. Je lis rapidement « Toute forme, le sport est, deux points, dit le Conseil de l'Europe, 1995, toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou non, est... ont pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychologique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tout niveau. » On voit que dans cette définition, il y a au moins trois choses. Il y a des activités qui renvoient à ce que j'appellerais des pratiques pour soi, qui sont des améliorations de soi, qui sont définies ici comme étant renvoyées à des repères physiques ou psychologiques. Deuxièmement, et ça me paraît beaucoup plus important, il y a un renvoi à des pratiques qui sont plus institutionnelles, il faudra qu'on dise ce qu'est une institution, et qui sont des pratiques compétitives. Et puis enfin, il y a, mais ce n'est pas dit dans la définition, et pourtant ça me paraît très important, une pratique qui renvoie essentiellement à du spectacle, et qui est celle que nous regardons quand nous regardons la télévision, et qui peut être parfaitement coupée de ce que nous faisons, si éventuellement nous faisons du sport. Donc je crois que ce sont ces trois dimensions qu'il faut prendre en compte. À la fois des pratiques pour soi, qui sont des pratiques physiques, qui peuvent ne pas être compétitives, en même temps des pratiques compétitives et institutionnalisées, et enfin des pratiques de spectacle, qui mettent en scène un certain nombre de choses, et en particulier des valeurs. Alors, je crois que pour essayer de dénouer un petit peu ces niveaux différents, comprendre leur implication dans nos sociétés, je crois qu'il faut faire un minimum d'histoire. Il faut rappeler un certain nombre de choses rapidement. Donc, mon plan se présentera de la manière suivante. D'abord, je ferai un survol historique. Et puis ensuite, je reprendrai les unes après les autres ces diverses facettes dont je viens de parler. Mais je ne les prendrai pas dans l'ordre qui est évoqué par la définition du Conseil de l'Europe. Je prendrai un ordre inverse, parce que je pense que c'est à partir du spectacle qu'on peut comprendre un certain nombre de choses. Donc, je commencerai par les pratiques de spectacle et de mise en scène. Ensuite, je m'interrogerai sur des pratiques de masse, mais qui sont compétitives et institutionnalisées. Et enfin, je m'interrogerai, parce que je crois que c'est là que se jouent effectivement un certain nombre de choses quant à nos propres corps, je m'interrogerai sur des pratiques de masse qui peuvent être compétitives mais qui ne sont pas institutionnelles, ou qui peuvent ne pas être compétitives mais qui sont des pratiques physiques, et que l'on entend par sport en envisageant la notion de sport dans un sens très large, avec des guillemets. Alors j'en viens maintenant à mes quatre points, mon survol historique que je vais... Je dis survol parce que ce n'est pas la peine, ici nous ne sommes pas là pour faire d'histoire, hein. Je ne vais pas rentrer dans un certain nombre de détails, mais je pense qu'il faut faire ce survol historique pour comprendre la caractéristique de ces pratiques. J'envisagerai donc les Jeux anciens très rapidement, ensuite les Jeux contemporains, et puis j'envisagerai une notion que je trouve personnellement assez centrale, et qui est celle que j'appelle une contre-société dont le sport serait l'image, et qui serait encore plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant. Alors rapidement, ces trois points dans le survol historique. Le jeu ancien, c'est-à-dire celui qui n'est pas encore du sport et qui renvoie aux sociétés, appelons-les, je ne sais pas, pré-industrielles ou pré-révolutionnaires, les sociétés d'ancien régime, a plusieurs caractéristiques qui, en négatif, vont faire apparaître les caractéristiques importantes du sport aujourd'hui. Alors, ce sont des pratiques de paris, par exemple. Autrement dit, nous sortons de cette salle, nous parions que nous allons monter la rue des Saints-Pères dans X temps, et puis nous allons dire si moi je fais plus, je gagne tant, etc. Bref, je parie tant. Bon, c'est très important le pari. Parce que le pari, dans une situation où le jeu n'est pas institutionnalisé, où il n'existe pas à travers une administration, le pari garantit le sérieux de l'autre. Donc le pari, indirectement, montre l'état non véritablement institutionnalisé du jeu ancien. Deuxièmement, vous avez des jeux qui sont des jeux de fête, évidemment, qui sont liés aux fêtes religieuses en particulier, ou à des fêtes personnelles pour les nobles, la naissance de tel enfant, ou le mariage. On a donc deux catégories de jeux, des jeux que j'appellerais de prix, qui sont donnés dans le cadre de ces fêtes, qui sont plutôt des fêtes religieuses, qui sont rythmées par un temps qui n'est plus véritablement notre temps, qui est le temps des fêtes religieuses. Et puis vous avez des jeux qui sont complètement émiettés, à la fois dans l'espace et dans le temps, parce qu'ils correspondent précisément à la temporalité quotidienne de ces sociétés anciennes, et qui sont des jeux de paris. Alors, comment ils se déroulent, ces jeux ? Eh bien, je pense qu'ils ne se répondent ni à notre espace, ni à notre temps, ni à notre sociabilité. Ils ne répondent pas à notre espace parce qu'ils ne sont pas organisés comme le sont aujourd'hui les pratiques sportives, avec des terrains parfaitement balisés, avec des lieux qui sont séparés des lieux quotidiens. Les jeux anciens sont complètement interpénétrés dans les lieux quotidiens. Et quelques-uns, bien entendu, ont leurs espaces. Tout le monde sait que le jeu de pommes, parce que Molière a pu jouer dans des jeux de pommes, tout le monde sait que le jeu de pommes a un espace qui est fermé, qui est balisé, etc. Mais vous savez, c'est rare. Les jeux anciens, la pomme quotidienne, ça se déroule contre le mur d'une église ou ça se déroule avec un fil vaguement tendu dans une cour. Donc, y a, là encore, parce que le jeu n'est pas réellement institutionnalisé, le temps n'est absolument pas le même, comme je viens de le laisser entendre. C'est un temps qui est complètement dispersé, c'est un temps de, je dirais, gagner à la limite sur le temps de travail, le temps de travail étant dominant dans la société ancienne. Et ce n'est pas du tout la même sociabilité, c'est peut-être là qu'il faut insister un instant, ce n'est pas la même sociabilité dans la mesure où il y a plusieurs caractéristiques très fortes. Ce sont des jeux qui sont très exclusifs socialement. Évidemment, un noble ne joue pas avec quelqu'un qui ne l'est pas, une femme ne joue pas avec un homme. Et de surcroît, lorsque vaguement ces jeux sont organisés, ils sont très hiérarchisés. Par exemple, dans ce qui s'appelait des sociétés de tir, n'importe qui n'entre pas dans la société de tir, évidemment. Il faut être catholique, avoir des mœurs respectables. Mais surtout, lorsqu'on entre dans une société de tir, on entre dans une hiérarchie que l'on ne maîtrise pas. Le capitaine de la société de tir, c'est le noble le plus élevé, ou c'est le militaire qui a le grade le plus important, etc. Et cela renvoie à un monde que nous avons oublié, et qui est un monde, non pas que la hiérarchie ait disparu, mais un monde que nous avons oublié, où les individus sont intrinsèquement, hiérarchiquement différents les uns par rapport aux autres. Non pas qu'il n'y ait pas d'ambition égalitaire dans la société ancienne, le catholicisme pourrait en être de façon furtive un exemple, mais fondamentalement, c'est une société hiérarchique. Et le sport va inventer autre chose. Dernière remarque, le jeu que l'on connaît dans la société ancienne, c'est un jeu qui, moralement, est plus ou moins douteux. C'est un passe-temps, c'est du temps gagné, comme je disais tout à l'heure. C'est un lieu où on peut arnaquer, puis il y a du pari, vous voyez. Ça fait circuler de l'argent d'une manière qui n'est pas très, très claire, qui est obscure, qui est faite parfois de systèmes plus ou moins douteux. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de système douteux dans le sport d'aujourd'hui, parce que là, évidemment, je vous dirais, bien sûr que oui, mais pas du tout sous la même forme, pas du tout avec les mêmes types de précautions. Là, il n'y a pas de précautions. Autrement dit, dans certains cas, au fond, l'homme de la paume, c'est un homme de mauvaise vie, vous voyez, en gros. Or, évidemment, le sport invente autre chose. Il n'invente pas ça d'un coup. Le sport n'arrive pas telle année, au 19e siècle, et puis crée sa rupture. Ça se passe évidemment lentement, les historiens le savent bien. Je ne suis pas ici pour rentrer dans l'ensemble des détails. Je suis ici quand même pour marquer le fait qu'une rupture fondamentale va se produire au 19e siècle, de plusieurs manières. D'une part, ces pratiques vont s'institutionnaliser, on va inventer quelque chose qui est de l'ordre de l'institution telle que le Larousse peut la décrire, c'est-à-dire un dispositif social, en même temps une règle, une réglementation, le tout installé, organisé à des fins, au fond, qui sont des fins d'intérêt collectif. Voilà ce que dit le Larousse dans la définition de l'institution. Or, c'est cela que créent les fédérations sportives. C'est cela que crée le Jockey Club en 1833. Mais quand on a dit institution, on n'a pas dit grand-chose et on n'a surtout pas tout dit. Parce que c'est précisément sur l'espace, sur le temps et sur la sociabilité que le sport va inventer trois types de repères complètement différents de ceux qui existaient auparavant. Espace spécifique, avec des terrains qui vont se baliser, qui vont devenir techniques, qui vont devenir extrêmement précis. Temps spécifique, avec une société qui perd partiellement ses repères religieux pour inventer de nouveaux repères, qui sont ceux d'une chronicité lui appartenant en propre. La périodicité, le rythme des rencontres sportives est un rythme inventé au fond, au sein même d'une société industrielle. Ça, c'est très important. Avec en plus un temps qui va se scander par rapport au temps de travail, qui va essayer de trouver de l'espace, qui va gagner au fond de l'espace temporel, si je peux utiliser ce type de métaphore. Et puis une sociabilité complètement différente qui va s'inventer très lentement. Nous ne sommes pas encore aujourd'hui dans une sociabilité égalitaire au niveau du sport, mais c'est quand même le projet d'une sociabilité égalitaire, avec toutes les obscurités et les ombres que l'on peut imaginer, vous vous en doutez bien. Mais c'est bien ce projet d'une société égalitaire que le sport tente de promouvoir, avec ses illusions aussi. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faudra insister tout à l'heure. Mais c'est un nouveau type de sociabilité que le sport promeut, exactement comme les concours promeuvent un nouveau type de sociabilité au 19e, ou comme les cercles de bibliothèque, les cercles de lecture, ou même les installations d'une démocratie dans les communes. Mais, dernière caractéristique, et elle est fondamentale, c'est que le sport va proposer, dans une sorte d'imaginaire, à mon avis, échevelé, si vous voulez, un imaginaire complètement fou, va proposer une pratique qui se veut absolument morale, et qui va afficher une morale, sur un mode, à mon avis, qui va insensiblement installer du mythe, insensiblement installer de l'illusion, mais qui néanmoins est au cœur du projet sportif, est au cœur du projet coubertinien. Mais Coubertin, c'est un écrivain parmi d'autres à la fin du XIXe siècle, lorsque ces gens disent le sport se veut une pratique totalement exemplaire, exemplaire dans trois dimensions, à la fois parce qu'il promeut de l'égalité, en même temps parce qu'il promeut du respect de l'autre, et enfin, parce qu'il tente d'installer quelque chose dans une temporalité de progrès toujours mieux, avec cette notion nouvelle, très inquiétante, qui est celle de l'excès, que Coubertin tente d'assumer, d'ailleurs, c'est à la limite presque de l'abus, aller toujours plus loin, vous voyez, qui est quelque chose d'extrêmement contemporain, à mon avis. Et là, on voit bien comment on ne peut pas ne pas penser le sport en fonction précisément des repères contemporains. On voit bien aussi comment le sport ne peut pas ne pas être pensé sans être vu comme une pratique qui révèle un certain nombre de nos repères contemporains. Donc là, je crois qu'il y a quelque chose de nouveau dans les pratiques de loisirs, mais dans les pratiques sociales s'installe. Alors peut-être, on peut se dire, peut-être, c'est parce que la religion a reculé, c'est ce que dit de Coubertin, la religion a reculé, il faut inventer une nouvelle morale, la République a besoin d'inventer une nouvelle morale, la société industrielle a besoin d'inventer une nouvelle morale qui se déprenne de la seule morale religieuse. Il y a sans doute plusieurs pressions, conditions qui font que cette pratique se présente avec ce profil, mais toujours est-il que ce profil est totalement nouveau, il faut que nous en tenions compte. Et puis enfin, je disais que la morale, c'est le dernier point, mais il y a un autre point qui est totalement souterrain, celui-là, qui est le fait que cette pratique, elle va trouver ses financements. Elle ne va pas seulement être une sorte de pratique gratuite, même si de Coubertin prêche avec insistance la gratuité. Elle va être une pratique qui va trouver ses systèmes de financement, qui va inventer les systèmes de financement. Et là encore, elle va s'inscrire fondamentalement dans les projets de sociabilité et d'économie contemporaine. Je prends un exemple très rapide. Si vous voulez, le Tour de France ne pourrait pas exister si un journal ne s'était pas proposé de financer la course avec comme avantage le fait de la raconter, ce que le spectateur du bord des routes, lui, ne peut pas voir. Donc, il capte du coup des spectateurs qui vont le lire, le journal, et on voit comment l'auto qui invente le Tour de France en 1903 va augmenter progressivement son lectorat jusqu'à passer de dizaines de milliers en centaines de milliers après les années 20, à partir de 1903. Et puis deuxièmement, en captant le public, le journal capte des publicitaires qui vont trouver des panneaux à acheter et à diffuser. Voilà, ce qui me paraît totalement nouveau. Donc vous voyez que si on commence par « ce sont des pratiques qui se font entre nous, comme ça, dans des gymnases, comme disait le Conseil de l'Europe, à savoir avec une visée de simplement la santé », bon, je crois que non, c'est une pratique qui est extrêmement précise, compétitive, institutionnalisée, avec des projets qui ne sont pas toujours aussi clairs que la morale veut bien le dire. Et cette pratique, ce sera le troisième point de mon survol historique, cette pratique crée ce que j'appellerais personnellement une contre-société. C'est-à-dire elle va s'organiser, je ne dis pas en se fermant, mais dans une certaine mesure en s'autonomisant par rapport au monde social, en provoquant ses propres administrateurs, ses propres arbitres. On voit bien les problèmes que pose d'ailleurs l'arbitrage dans un certain nombre de rencontres, y compris des rencontres récentes. Elle va proposer aussi ses propres pratiquants et ses propres valeurs. Et elle les propose un peu comme exemple à notre propre société. Elle se construit comme à la fois un miroir, si vous voulez, et en même temps comme un lieu d'idéalisation possible. Et il me semble, et ça fait partie de mes hypothèses, je vais essayer de le montrer, il me semble que cette pratique gagne en importance parce que précisément les autres pratiques d'idéalisation ont eu tendance à reculer pour des raisons qui sont compliquées, qui sont évidemment des raisons économiques, qui sont évidemment des raisons culturelles, qui sont bien sûr aussi des raisons sociales, mais d'autres pratiques ont eu tendance à reculer. Je pense à la religion, je pense aux transcendances politiques, etc. Et finalement, nos sociétés, en particulier les sociétés occidentales, moins les autres, mais nos sociétés se trouvent ont entre les mains, en quelque sorte, une pratique qui se dit égalitaire, démocratique, défendant un certain nombre d'idéaux, se voulant totalement exemplaire et exhibant ces exemples à travers des rituels dont je parlerai davantage tout à l'heure, les podiums, les résultats, les affichages, etc. Il semble que cette pratique, elle a tout un ensemble d'instruments, d'une visibilité tout à fait étonnante, instruments extrêmement variés et instruments venant se coller de façon tout à fait mimétique et, je dirais, pertinente aux repères de notre propre société. Donc cette pratique projette, comme dit un auteur dont je me suis en partie inspiré, qui est Bernard Jeu, dans un article de 73 dans Esprit, mais qui, à mon avis, n'avait pas poussé suffisamment loin, 73, c'est pas 2002, cette idée de la contre-société, mais il disait déjà très bien, le sport projette un idéal qui vient de la société, mais que la société se révèle précisément incapable de réaliser elle-même. Or, le sport, lui, eh bien, tente de dire voilà ce que nous devons être, voilà ce que nous sommes. Il crée, autrement dit, lâchant le mot, il crée une pratique que je qualifierais de mythique, non pas nécessairement pour la condamner. Je pense que certaines sociétés ont besoin de mythes. Ça, Lévi-Strauss l'a merveilleusement montré. Certaines sociétés existent parce que des mythes parviennent à surmonter certaines de leurs contradictions. Vous voyez ? Entre autres, une de nos contradictions, c'est de projeter de l'égalité et de ne pas pouvoir la réaliser. Donc là, on voit comment des pratiques de ce genre peuvent nous aider à accepter finalement quelque chose qui, dans les faits, ne se réalise pas. Et cette pratique mythique, cette contre-société, dispose non seulement d'instruments administratifs institutionnels dont je viens de parler, mais elle dispose de quelque chose de plus, me semble-t-il, qui est qu'elle parvient à inventer des logiques narratives, elle parvient à inventer des façons de dire, des façons de raconter. Il y a une littérature sportive qui se crée, mais vous savez, il y a surtout un journalisme sportif qui se crée. Je parlais du Tour de France. On voit comment, quand on lit l'auto, on voit comment les journalistes construisent, au fond, de la mythologie, du récit, et dans la manière de raconter, construisent finalement, mettent en acte un certain nombre de repères qui renvoient à nos grands mythes. Le petit qui l'emporte par rapport au grand, le déshérité qui l'emporte par rapport au nanti, celui qui mérite et qui finit par l'emporter, celui qui a du talent, je renvoie à la déclaration des droits de l'autre, des droits de l'homme. Je renvoie à cela. Rappelez-vous, ne doivent être pris en compte que les talents et les vertus. Eh bien, dans les textes des journalistes de l'auto, c'est les talents et les vertus qui sont au centre du projet et qui sont au centre de la mise en scène. Donc voilà ce que le sport, à mon sens, met en place. ces récits font exister des héros, évidemment, des légendes, font exister un monde qui est un monde imaginaire, mais extrêmement construit, et, à mon sens, un monde qui a son efficacité, bien sûr. Alors, j'en viens maintenant au spectacle. Eh bien, je crois que le spectacle passe par tout ce dont je viens de parler. J'irai rapidement, je donnerai un ensemble de faits. Ensuite, pourquoi le spectacle a autant d'impact et de force. Et puis, enfin, les risques du spectacle, évidemment. Alors, les faits, les rituels, le spectacle est fait de... Le sport invente des rituels. Il invente des rituels qui sont transnationaux aujourd'hui. On ne s'intéresse pas suffisamment, à mon avis, aux cérémonies d'inauguration. Regardez à quel point ces cérémonies tentent de créer quelque chose qui est spécifique, sans toujours y parvenir, mais elles tentent. Et ça, c'est très intéressant, à mon sens. Rituel très simple, rituel qui se planétarise, si je puis dire. Puis, deuxièmement, ces pratiques de spectacle se diffusent à une échelle planétaire, mais avec un succès considérable, 40 milliards effectifs cumulés de téléspectateurs pour la Coupe du Monde de football. Troisièmement, il y a un investissement massif, quand je pense aux faits, hein, les faits, les rituels, les investissements massifs en termes de diffusion, les investissements massifs en termes d'argent, de budget. Des budgets considérables, ne serait-ce que les budgets de télévision, pour aller très vite, $34,862 pour l'ensemble des pays aux Jeux de 1976, plusieurs milliards de dollars pour la télévision aux Jeux de 2000. Donc là, il y a une démultiplication de l'investissement financier. Alors pourquoi ? Très difficile de répondre, très difficile d'expliquer. La sociologie a toujours du mal à dire voilà les causes. Ou l'histoire aussi a toujours du mal à dire voilà les causes. Je vais essayer de me livrer modestement et difficilement à ce type de questions. Je crois que manifestement nous sommes entrés, sans doute grâce à la télévision, mais aussi grâce au temps libre, mais aussi grâce quand même à un certain type d'enrichissement dans nos sociétés. Nous sommes entrés dans des sociétés de divertissement, non pas que le travail ait perdu de l'importance, je pense que l'identité passe par le travail. Ça, il faut absolument se méfier des grands sociologues des loisirs qui disent l'identité passe par les loisirs. Évidemment non, l'identité passe par le travail. Mais une identité forte passe aussi par les loisirs. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, donc, par rapport au temps de travail, loisirs de plus en plus larges et un certain nombre de forces qui se mettent à investir les loisirs, et en particulier les images télévisuelles. Le jeu télévisuel, l'excitation, le rêve. Moi, je trouve qu'il faut s'attacher aux mots qui sont utilisés par les journaux, une fois encore. Et quand on lit les premières pages, hein, les premières pages des journaux avant les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, etc., j'avais relevé systématiquement ces pages lors des Jeux de Sydney en 2000. Et je voyais que le rêve commence, pour les Australiens, le rêve est devenu réalité, que vive le rêve, etc., etc. C'est une société de show aussi, c'est-à-dire c'est une société qui non seulement joue, s'engage dans le divertissement, mais magnifie la façon dont un certain nombre de sujets sont promus, au fond, par l'image. Et cela aussi me paraît personnellement extrêmement intéressant. On ne souligne pas suffisamment le fait que un certain nombre d'identités passent par la façon dont les sujets sont montrés, et uniquement montrés. Et la manière dont certains, du coup, sont montrés provoque à la limite de l'excitation et provoque des processus d'individualisation. Nous sommes, troisièmement, dans des sociétés de l'événement. Non pas que les événements soient devenus plus importants du tout, mais nous sommes dans des sociétés où l'événement est servi par des systèmes d'information et où on a le sentiment, dans certains cas, que c'est l'information qui fait l'événement. Or, la société sportive se glisse de manière absolument ahurissante dans la société de l'information. Il y a toujours une information nouvelle. Il y a toujours quelque chose de nouveau que le sport peut nous apprendre. Non pas que cet apprentissage soit nécessairement profond, mais cet apprentissage, néanmoins, se donne comme totalement réel. Voyez ? Et ça, c'est très important. D'où cette façon, dans certains cas, de commencer les informations par les informations sportives. Donc, trois choses auxquelles j'attribue personnellement une grande importance. Mais il y a un quatrième point que je ne saurais négliger, qui est lié au précédent, mais que je me dois d'autonomiser, c'est le fait que les images, elles passent assez facilement dans nos sociétés d'un secteur à un autre. Et que celui qui est brillant dans un secteur est souvent considéré comme susceptible d'investir de la valeur dans un autre. Non pas que le champion devienne nécessairement un politique, par exemple. C'est pas ça que je veux dire. Mais celui qui est privilégié par l'image est toujours investi d'une valeur ailleurs. Et on le voit très clairement dans la manière, par exemple, dont le succès de certains pays dans les Coupes du Monde, dans les Jeux, est aussitôt interprété à un autre niveau. Un article de Libération, 22 mars 2002. C'est en mars, vous me direz. Sans doute, Libé aurait-il dit autre chose, mais ça confirmerait mon hypothèse, aurait-il dit autre chose au mois de juillet 2002. Mais en mars 2002, le titre d'un article, Portrait de la France, un pays décomplexé. Le foot, l'important n'est plus de participer, mais l'important est de gagner. Et le pays est décomplexé parce que le pays gagne au niveau du football. Au niveau de la France, c'est extrêmement puissant, nous l'avons constaté. Vous vous doutez que c'est infiniment plus puissant pour d'autres pays où certains avantages, entre guillemets, économiques et planétaires sont moins importants. Et on le voit, la Corée, moi je trouve que ce qui s'est passé en Corée, je ne veux pas être long, mais ce qui s'est passé en Corée est extrêmement intéressant, à la fois au niveau de la Corée au sens large et au niveau de la Corée en tant que pays. La réussite de la Corée joue au moins à trois niveaux. Premier niveau, ferveur comme unité nationale. La Corée du Sud qui se donne la possibilité de s'opposer très fortement à la Corée du Nord et qui montre, exhibe au niveau mondial sa force, sa puissance nationale. Deuxième niveau, la Corée qui s'oppose non pas seulement à la Corée du Nord, mais à l'Amérique et au Japon. Ceux qui dominent actuellement le pays ou ceux qui l'ont dominé ou le dominent indirectement. Et on voit comment il y a une ferveur, au fond, anti-américaine et anti-japonaise qui s'est fortement déployée à travers les succès de la Corée durant la Coupe du Monde. Et puis, troisièmement, il y a un autre type de ferveur qu'il ne faut pas du tout négliger concernant les victoires de la Corée. C'est une ferveur pan-asiatique. La Corée se présentant comme la représentante, finalement, des pays asiatiques dans la Coupe du Monde et la représentante d'un sérieux qui devient, du coup, un sérieux, je dirais, au sens très large du terme, à la fois politique, économique, bref, à la limite humain, alors que c'est tiré d'un jeu. Mais ce que je veux dire depuis un moment, c'est que tout le dispositif fait que, au bout d'un certain temps, ce n'est plus un jeu. Ça devient totalement autre chose. Et les exemples dont je viens de parler le montrent. D'autres exemples multiples le montrent aussi. On voit comment certaines villes s'investissent complètement dans l'équipe et considèrent que c'est elles-mêmes qui sont promues à travers l'équipe. On le voit comment certains considèrent que le sport est le meilleur véhicule d'une communication, etc. etc. Je crois qu'il faut ajouter une chose, c'est que si on se lance dans ce type d'analyse, il faut ajouter une chose qui ne peut pas ne pas faire apparaître précisément le rôle important du sport aujourd'hui, c'est que les héros ne peuvent être véritablement promus que s'ils sont portés par d'autres forces que les seules forces du sport, ou s'ils donnent le sentiment qu'en se promouvant à travers le sport, ils touchent à autre chose. Je cite deux ou trois exemples rapidement. Tabarly, à mon avis, n'aurait pas pu avoir l'image qu'il a eue, pour aller très vite, s'il n'était pas apparu comme, au fond, le père, je dirais, d'une sorte de nation océane, vous voyez, le père d'une nation qui commence à s'investir précisément dans la plaisance, dans la navigation de plaisance. Et ça renvoie aux années 60. Je pense qu'un Tabarly dans les années 30 n'aurait pas pu exister comme il a existé dans les années 60. Et de la même manière, Coppi n'aurait pas pu du tout exister comme il a existé si un champion italien de sa trempe avait fonctionné, entre guillemets, 20 ans avant. Coppi renvoie à une Italie qui se retrouve, à une Italie qui sort du fascisme, à une Italie qui est portée par un rêve économique, démocratique, etc. Très bien montré dans un livre superbe de Jameux sur Coppi. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, troisième point concernant le spectacle, bien entendu, il y a des risques. Puisque ce spectacle est le lieu d'un investissement massif, puisque c'est le lieu d'une pratique qui côtoie l'excès, je trouve qu'il y a, et vous le savez, il y a évidemment des risques. Et ces risques sont très forts aujourd'hui, très présents. Quatre types de risques. Dérives financières, on joue sur l'argent, on se laisse gagner par la montée finalement de la disponibilité financière et on la joue pour faire autre chose, soit pour tricher, soit pour donner le change, soit pour s'accaparer des joueurs alors qu'on n'a pas la possibilité de les financer, donc on court le risque finalement de la bulle financière. Deuxième type de dérive, la violence. tout le monde le sait, violence à la fois des joueurs, violence des spectateurs. Troisième type de dérive, les dérives sanitaires, le jeu sur son propre corps, l'utilisation des drogues et des ressources médicales. Quatrième type de dérive, qu'il ne faut pas oublier, c'est que le succès médiatique hiérarchise immédiatement les pratiques sportives. Et celles qui réussissent mieux dans les médias se trouvent promues, celles qui réussissent moins, qui sont moins spectaculaires. La lutte, par exemple, ce n'est pas spectaculaire du tout, ça, c'est certain. Bon, eh bien, se trouvent totalement ravalées au bas des hiérarchies de pratiques. Il ne faut pas oublier ce problème de l'inégalité, parce qu'il y a des responsabilités publiques par rapport à l'inégalité sportive. Et on voit comment aujourd'hui, on tente effectivement, vaille que vaille, de redistribuer la manne que certains sports peuvent engranger, redistribuer sur d'autres sports qui, eux, ne sont pas en mesure d'engranger cette manne. Alors je crois que ces dérives sont très importantes, sont très inquiétantes, et elles ne peuvent pas, à mon sens, être résolues, si seuls les responsables sportifs en sont comptables. Tout simplement parce que les responsables sportifs sont liés au mythe, et ils ont tendance, et plus que ça, je dirais, ils ont grandement intérêt à ce que le mythe existe. Et pour que le mythe existe, eh ben, il faut privilégier la réussite, il faut privilégier l'avancée, etc. Donc personnellement, ce que je soutiens très fortement, pour tout vous dire, à la limite presque sur un mode militant, même si le militantisme, ceux qui me connaissent le savent, ne renvoie pas nécessairement à ma personnalité, mais ce que je soutiens fortement, c'est effectivement le fait que d'autres que les sportifs s'impliquent dans le phénomène sportif, et en particulier l'État. Alors c'est pas que je sois partisan d'une puissance étatique survalorisée, mais incontournablement, l'ensemble des citoyens, et donc l'État, sont comptables de ces dérives et de ces pratiques. Et je crois qu'il faut de plus en plus que les sportifs, au fond, soient soumis à la loi de tous, et que les dérives sanitaires, les dérives financières et les violences soient gérées. On voit comment elles le sont, d'ailleurs. Je trouve que sur les violences, il y a d'immenses progrès qui sont faits, parce que notre société est très sensible au phénomène de violence. Je n'ai pas le sentiment que sur les dérives sanitaires, beaucoup de progrès soient faits, même s'il y a des lois, même si certaines de ces lois sont intéressantes. Mais par exemple, la recherche sur le dopage est quasi inexistante aujourd'hui. Ceux qui m'ont précédé l'ont montré, ici même. Donc là, je crois qu'il y a un énorme travail à faire. Alors, je n'en suis qu'à mon second point. Très rapidement maintenant, mon troisième point, les pratiques de tous. Et les compétitions, je crois que elles révèlent, elles aussi, au-delà du spectacle, un certain nombre de choses très importantes dans nos sociétés. Alors, je crois qu'il faut rappeler leur présence. Il y a très peu, vous savez, en France, de sportifs de haut niveau. Je crois qu'en gros, on peut compter, bon an, mal an, 5 à 6 000 sportifs de haut niveau, ceux qui font le spectacle. Il y a immensément de spectateurs, on le sait. Je l'ai dit. Mais en revanche, il y a beaucoup de pratiquants qui ne sont pas des sportifs de haut niveau, qui ne sont pas encartés dans le soutien au phénomène olympique, par exemple, mais qui n'en sont pas moins très investis et qui n'en sont pas moins très importants. Je disais 14 millions de licenciés. Ça ne veut pas dire 14 millions uniquement de sportifs licenciés. En fait, certains ont plusieurs licences. Mais ceux qui sont encartés et qui ont des licences sont au nombre de 10 millions en France. C'est considérable. Il y a 8 millions de gens qui font de la compétition. C'est considérable. Tous les élèves sont soumis, théoriquement, aux pratiques sportives dans notre société. Ce n'est pas négligeable. Ce sont ces choses-là qu'il faut prendre en compte, à mon avis. Et qu'il faut prendre en compte en soulignant un certain nombre de différences et de spécificités sur lesquelles je vais être assez rapide, mais sur lesquelles je voudrais être également assez précis. Spécificité des pratiques. Certaines sont plus séduisantes, sont plus reconnues, sont plus fréquentées que d'autres. Le football, dont le nombre de licenciés a considérablement augmenté en quelques années. Ça aussi, c'est un phénomène très important. 700 000 en 1970 de pratiquants avec licence, plus de 2 millions en 1998. Le tennis, 167 000 pratiquants en 70, plus d'un million en 98. À l'inverse, la boxe, 13 200 en 1980, moins de 12 000 en 98. Donc là, on voit bien ceux qui disent que nos sociétés sont gagnées par la violence, on voit que la question est complexe. Qu'à la fois, évidemment, ce n'est pas moi qui vais le nier. Bien sûr qu'il y a des problèmes de violence. Mais il ne faut pas oublier aussi que existe dans nos sociétés une certaine sensibilité à l'égard de la violence, une certaine intolérance à l'égard de la violence. Et que les pratiques étaient très tolérées au début du 19e et encore au début du 20e ne le sont plus aujourd'hui. La boxe baisse. Ça, je pense que le sport est un révélateur de ce point de vue, vous voyez, d'une sensibilité. Et je pense que c'est très important qu'il ne faut pas l'oublier. Troisième catégorie de remarques concernant ces pratiques de tous, je crois qu'il y a des variations en fonction à la fois du social, en fonction du sexe, bien entendu, et en fonction de ce que j'appellerais la culture. Alors, le social, ça a été très bien étudié. Il y a une littérature grise là-dessus qui est considérable. Et les thèses se sont multipliées. J'en citerai une qui n'est pas satisfaisante, mais qui est très parlante. Une thèse qui montre, par exemple, que dans les pratiques de combat, on peut différencier socialement les pratiquants. Et que ceux qui font de la lutte, en général, ce qui est un combat de reptation au sol, un combat compliqué, un combat de prise de main, un combat de sueur, vous voyez, en général, appartiendrait, je parle au conditionnel, parce que cette thèse me semble devoir être relativisée, mais elle est intéressante en soi, appartiendrait à des pratiquants plutôt défavorisé socialement, qu'au contraire, le judo, qui, lui, est déjà une pratique plus virevoltante, plus sensible à l'agilité, à la souplesse, à une prise relativement éloignée des mains, renvoie à un public qui serait plutôt un public d'employés, un public un peu plus valorisé socialement. Et enfin, le aïkido, qui est une pratique beaucoup plus éloignée, qui à la limite n'est même plus une pratique de combat, mais de mime de combat, appartiendrait à des classes plus aisées, plus intellectualisées, etc. Je trouve que ce type d'analyse est indiscutablement intéressant, parce qu'il renvoie à la question qui est posée depuis maintenant un certain temps, bien sûr, qui est la question suivante. Comment des personnes qui sont investies socialement d'une manière X ou Y, produisent des pratiques physiques qui, précisément, sont structurées d'une manière X ou Y. Et ça, c'est une question centrale. Cela dit, elle doit être immédiatement nuancée, parce que quand l'auteur dont je parle dit les pratiques de fatigue, les pratiques dures, renvoient à des, comme je le disais à l'instant, des pratiquants plutôt défavorisés, des ouvriers, si vous voulez, bon, au sens vraiment massif, on voit très bien qu'il y a des pratiques d'exténuation qui sont au contraire des pratiques très valorisées par des classes plutôt favorisées. Je pense au triathlon, qui est une pratique d'épuisement absolu. Voyez, donc ces questions-là doivent être, à mon avis, nuancées et renvoyées à d'autres catégories de questions qui sont quelles sont les valeurs physiques que nos sociétés ont tendance à valoriser et que j'aborderai dans un troisième moment de mes dispositifs, de mes différences structurelles. Mon premier moment, différence structurelle, c'est le social. Deuxième moment, c'est les différences sexuelles, évidemment. On le voit, là, l'égalité est indiscutablement non atteinte. Ça se lit dans les chiffres. Dans l'enquête qu'a faite récemment encore Patrick Mignon, qui a parlé récemment ici, les hommes sont 6 millions de licenciés, les femmes 4 millions. La compétition renvoie des différences encore plus fortes. 4,2 millions d'hommes qui font de la compétition lorsqu'ils sont licenciés, 1,3 million de femmes. Donc là, il y a réellement des différences très fortes qui renvoient d'ailleurs à des différences que l'on connaît bien et qui sont des différences au niveau du fonctionnement de la famille, du fonctionnement du travail, etc. L'égalité n'est pas acquise, bien entendu. Deuxième type de remarque concernant la différence sexuelle, c'est qu'il y a une différence entre des types de pratiques masculines et des types de pratiques féminines, le football, le rugby étant plutôt des pratiques masculines, la gymnastique, la danse étant plutôt des pratiques féminines, même s'il y a incontestablement aussi, il ne faut pas l'oublier, des repères qui peuvent se croiser et certaines pratiques masculines commencent à s'inspirer parfois de repères féminins, à la fois dans l'allure, aussi dans un ensemble de dispositifs physiques. Je pense à la gymnastique au sol masculine qui commence à intégrer des repères féminins ou des danses masculines, etc. Mais des différences fortes, qui sont des différences sexuelles et culturelles, n'en sont pas moins marquées. Et puis, je crois qu'il faut, quand on réfléchit aux différences structurelles des pratiques, je crois qu'il faut un troisième type de remarque auquel je tiens davantage encore, et qui porte sur ce que j'appellerais des variations culturelles, ou plus encore largement et plus précisément civilisationnelles. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il me semble que nos sociétés sont porteuses d'un certain nombre de repères totalement nouveaux et qui renvoient à des modalités de mise en scène de soi et de vécu de soi totalement nouveaux, au moins sur trois versants. J'en avais parlé quand j'étais interviewé dans l'Université de tous les savoirs en exposant un thème qui portait sur le culte du corps. Je reprends rapidement ici au moins ce versant de la façon dont on vit sa propre identité à travers son corps aujourd'hui. Il me semble qu'on la vit sur trois vecteurs. Le premier, c'est la manière dont on met en scène soi-même, la façon dont moi je m'exprime devant vous, je balance mes mains, etc., je souris ou pas. La deuxième, c'est la façon dont on se fabrique soi-même, c'est-à-dire par exemple à travers le bodybuilding, dont on se construit au fond une apparence. On se grime, on se grime pas, etc. La troisième, beaucoup plus obscure et en un certain sens beaucoup plus centrale, c'est ce que j'appellerais la façon dont on se communique avec soi-même, la façon dont on s'éprouve soi-même, la manière dont il y a une relation entre soi et soi, la façon dont l'intimité de soi, finalement, est mise en jeu. Or, ces trois points me semblent avoir été déplacés aujourd'hui, et il me semble que ces trois points sont parfaitement éclairés par l'investissement dans les pratiques sportives. Alors, la mise en scène de soi, je crois que l'image joue de plus en plus un rôle, peut-être parce que l'investissement sur soi, l'identité de soi vis-à-vis des autres passe de plus en plus par le corps. Les repères, vous savez, les repères de classe sociale sont moins marquants qu'ils ne l'étaient auparavant. Il y a une sorte d'uniformisation de l'apparence, beaucoup plus forte qu'elle n'existait, je ne dis pas sous l'Ancien Régime où c'était évident, vous décodiez au moindre regard, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est les sujets qui se mettent en scène. Et je crois qu'il y a une pratique de la mise en scène également très nouvelle, avec le fait que vos qualités sont codées par votre quantité, votre puissance d'image possible, votre démultiplication de l'image possible, les photos, le film, les vidéos, etc. Moi, je trouve qu'une des analyses très fortes sur ce plan sont celles de Jean-Claude Kaufmann dans un article récent du Débat, où il dit qu'il y a une véritable mutation anthropologique qui est en train de se produire sous nos yeux, dans cette façon dont nous jouons finalement sur notre propre image et où notre identité passe par la démultiplication possible de cette image. Or, le sport est au cœur de la façon dont on se met en scène, précisément. Deuxième chose concernant la fabrication de soi, je vais très vite, c'est la musculation, etc. C'est beaucoup plus fort, cela, dans les pratiques hors institution. Je pense que le sportif, il ne vise pas a priori la façon de se fabriquer, même si dans certains cas, c'est parfaitement clair que cette visée existe. Mais le troisième, plus important à mon avis, l'intimité, la façon dont on s'éprouve soi-même. Alors là, je crois qu'il s'est passé quelque chose de très fort dans ces dernières décennies, qui est que, au fond, ce qui était auparavant de la transcendance qui existait en dehors de nous-mêmes, dans lequel nous nous projetions comme une sorte de manière de se réaliser dans un au-delà de nous-mêmes, dont la religion est un exemple évident, dont la politique est un exemple évident, dont un certain nombre de missions, je dirais, de vocations, vous savez, la société de vocation est aussi un ensemble d'exemples évidents. Il me semble que ces grands repères-là, ces grands repères d'investissement collectif dans un au-delà ont très fortement reculé, pour des raisons qui sont parfaitement lisibles dans nos sociétés, qui sont liées au fait que nous sommes des sociétés de consommation, nous sommes des sociétés de présent, nous sommes des sociétés de la flexibilité des individus. Les individus, ce n'est pas du tout qu'ils se sont autonomisés, je dirais, pour gagner contre le social. Certes, en partie, ils ont gagné contre le social, mais c'est le social qui les construit, et qui les construit comme plus émiettés, précisément, comme ce vivant comme plus autonome, mais ce vivant comme plus autonome au service d'un certain nombre de forces qui restent sociales, dont la consommation est un exemple parmi bien d'autres. Et je crois que là, les sociologues deviennent clairs. On ne peut pas réfléchir simplement à l'individualisme comme un processus de conquête, c'est infiniment plus complexe. Mais néanmoins, ce gain entre guillemets, qui passe par le fait que l'individu s'investit beaucoup plus dans une identité qui le lie à lui-même et qui le lie à quoi ? à son corps, évidemment, à quelque chose qui est immédiatement tangible, qui est immédiatement immédiat, qui est immédiatement saisissable. Cela fait que, je crois, il a tendance à expérimenter beaucoup plus qu'auparavant quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance, mais au sein de lui-même. Quelque chose qui est au sens de l'infini, de l'au-delà, de l'impossible, vous voyez, la quête d'un ailleurs ou d'un impossible, mais qui devient précisément renvoyé à lui-même. Et là encore, peu de pratiques comme les pratiques sportives montrent ce type de tentative, tous azimuts, à la fois les triathlons précisément, c'est là qu'on le retrouve. L'essai d'aller au-delà, jusqu'à des épuisements qui paraissent à ceux qui ne sont pas familiers, qui paraissent absolument inouïs, ou des recherches de sensations intenses comme les sauts à l'élastique ou les glisses. Moi, je suis très sensible au phénomène de la glisse. Je trouve que c'est très contemporain, ça. Et c'est une façon précisément de travailler sur de l'éprouvé physique, vous voyez, et sur de l'éprouvé qui passe par du sensible et qui passe par du technique et qui est très lié, je trouve, à en particulier un certain nombre de techniques d'aujourd'hui qui sont des techniques de l'information et qui favorisent le flux précisément informationnel et qui favorisent le travail sur le contrôle du flux informationnel. Donc n'oublions pas les pratiques de glisse. Et on voit comment, finalement, la manière dont le sujet à la fois se met physiquement en scène et s'éprouve physiquement, et j'ajouterais se fabrique à la limite physiquement, passe aussi, ne me faites pas dire surtout, mais passe aussi par les pratiques sportives. Et on voit du coup comment, à quel point ces pratiques sportives semble finalement en mesure de révéler un certain nombre de repères devenus forts. J'irais peut-être même me laisser à dire des repères devenus centraux dans nos sociétés. Alors j'en viens maintenant à mon dernier point, qui est celui des pratiques hors institution. Vous savez, les pratiques hors institution, pourquoi elles sont intéressantes? Elles sont intéressantes non pas parce qu'elles inventent de nouveaux repères. Les repères centraux, je crois les avoir évoqués. Mais elles sont intéressantes parce qu'elles montrent comment il y a, pour certains de ces pratiquants, une revendication hors institution et une revendication forte pour certains d'entre eux. Il y a de très beaux travaux qui sont faits sur les surfeurs, par exemple. Il y a de très beaux travaux qui sont faits sur les rollers et qui montrent comment rollers et surfeurs et bien d'autres, freeriders pour le ski, par exemple, comment les uns et les autres ne veulent pas entrer dans la société compétitive institutionnalisée dont le sport serait l'exemple privilégié. Comment, au contraire, ils revendiquent des pratiques individuelles? Et on est renvoyé à, je crois personnellement ne pas me tromper en disant cela, on est renvoyé au repère d'individualisation dont je parlais tout à l'heure. Ces pratiques, simplement, elles mettent en scène ces repères d'individualisation sur un mode qui exhibe, finalement, la mise à distance et la volonté d'affichage, au fond, de l'individualisation. Mais je crois qu'il faut ajouter autre chose, et qui nous renvoie, cette fois, à un problème plus profondément économique et social dans nos sociétés. Je crois qu'il faut ajouter autre chose. Il y a ceux aussi qui pratiquent hors institution, au fond, parce qu'ils ont du mal à rentrer dans l'institution. Ça, il ne faut pas les oublier. Les streetballs, les pratiques des cités, sur lesquelles quelqu'un comme Pascal Duret a fait un superbe travail, et d'autres, le montrent. Certains jouent au football dans la cité par raccro, si vous voulez, et ils ont du mal et ils refusent, ils ont peur à rentrer dans l'institution. Et les pratiques sportives ici, finalement, mettent en scène quelque chose qui est tout simplement de l'ordre de l'exclusion dans nos sociétés. Et on voit comment, dans des pratiques d'exclusion, on retrouve quand même des pratiques sportives, mais on voit aussi, quand je disais tout à l'heure qu'il y a une responsabilité publique, on voit aussi comment la responsabilité publique est évidemment interpellée par ce type de pratique. Donc, au fond, nous sommes dans ces pratiques hors institution, dans une multiplicité finalement de pratiques. Je ne veux pas dire que c'est un rebut, ce serait grotesque de dire les choses comme ça, mais nous sommes dans une multiplicité de pratiques, à la fois où certains se trouvent dans la pratique hors institution par revendication, d'autres se trouvent dans la pratique hors institution par impuissance, entre guillemets. D'autres se trouvent dans la pratique hors institution par volonté qui n'est pas nécessairement le fait de refuser l'institution, mais qui est par volonté de se construire, de se détendre. Je pense à toutes ces pratiques de gymnase club et autres dont j'ai peu parlé, mais qui peuvent être notées lorsqu'on envisage la notion de sport dans un sens extrêmement large. Alors, ces pratiques institutionnelles, cette façon qui est ici, je pense par exemple à au gymnase club dont je parlais tout à l'heure, qui est beaucoup plus centré sur la fabrique de soi, vous voyez, la façon dont on se construit soi-même. Là, je crois qu'il y a une longue histoire. Alors, impossible de la faire ici et maintenant, cette longue histoire, mais la prudence veut que l'on ne présente pas les choses comme étant purement récentes. Je crois que la fabrique de soi, c'est quelque chose qui renvoie très loin, et la tentative de s'autonomiser et d'essayer de construire son propre corps comme étant finalement ce qui est dû à notre propre initiative, ce dont nous tentons de corriger l'héritage, si vous voulez, c'est quelque chose qui renvoie à très loin. Je trouve cette phrase en 1853 qui me paraît parfaitement révélatrice de nouveaux dispositifs au XIXe siècle, lorsque, dans un journal pour tous, une rédactrice écrit « Nos mères ont plié sous un joug insupportable. Aujourd'hui, c'est tout différent. Nous vivons en pleine liberté et cet état de choses a créé à toute femme une sorte de responsabilité de sa beauté. On n'a plus d'excuses si on n'est pas belle, etc. » Eh bien, je crois que les pratiques hors institution et les pratiques de gymnase club, les pratiques de, au fond, de détente, mais aussi de reconstruction de soi-même, sont l'exemple ultime de ce qu'il en est aujourd'hui, de ces formules d'entreprise, de reformulation de soi, si vous voulez. Je pense que la reformulation de soi aujourd'hui est extrêmement importante. Et il ne faut pas l'oublier. Et c'est là-dessus que je termine ma quatrième partie. Mais ce n'est pas là-dessus que je termine mon propos. Mon propos, je voudrais le conclure par trois points rapidement envisagés. Le premier, c'est que nous voyons à quel point, quand nous étudions le phénomène sportif, à quel point il s'agit de ce que les sociologues appellent banalement un phénomène social total qui investit à la fois du collectif, qui investit de l'individuel, qui investit de l'économique, du social, du culturel. On le voit, je crois l'avoir montré. Mais, deuxièmement, et c'est beaucoup plus important, on voit à quel point le sport, et ça je le dis avec insistance, révèle un certain nombre de dynamiques qui sont au cœur de nos sociétés. La première, c'est le jeu systématique avec l'image, beaucoup plus profond, beaucoup plus important, beaucoup plus dilué, beaucoup plus diffus qu'il ne l'était dans la télévision et le vecteur. Avec ce que je disais au début, le divertissement, mais aussi la mise en scène de soi. La deuxième chose, c'est un gain très important de temps dont nos sociétés disposent pour faire autre chose que le travail. En investissant des forces qui ne sont pas simplement celles de la distraction, je crois l'avoir montré. Et au cœur de nos sociétés, le troisième point, c'est que le sport met en jeu, met en scène quelque chose qui est de l'ordre de nos identités collectives. L'exemple de la Corée, entre autres, entre mille autres, le montre, qui est de l'ordre de nos identités individuelles. Les exemples que j'évoquais tout à l'heure à travers mise en scène de soi, fabrication de soi, intimité à l'égard de soi, le montrent aussi. On voit comment, si je remonte maintenant à mes hypothèses de départ, j'ai à la fois répondu et je suis allé un petit peu au-delà. Je disais, mes trois hypothèses, c'est sport et société de divertissement. Deuxièmement, investissement dans des valeurs collectives et dans des dynamiques. Troisièmement, un nouveau statut du corps. Je crois que dans ces conclusions, ces trois points s'y retrouvent. Je ne peux pas ne pas ajouter un dernier point, c'est que le sport comporte, et je crois l'avoir suffisamment souligné, ce que j'appellerais des zones d'ombre, des zones de dérive. Des zones qui sont celles d'une désocialisation possible. Zones à l'égard desquelles nous sommes tous responsables. Et en premier chef, la puissance publique, bien sûr. Donc, je crois que quand on s'interroge sur le thème sport et société, on plonge au cœur même des problèmes que pose notre société. J'en terminerai là-dessus. Je vous remercie pour votre attention.
Simplement un point à propos du sport et de la dimension de l'affrontement dans le sport. Vous n'avez pas envisagé l'aspect guerrier qui est souvent à l'origine d'un grand nombre de sports. Et comment justement cette dimension se traduit-elle dans la structure de nos sociétés ?
Écoutez, à l'évidence, oui, le repère guerrier est important. Je pense que ce n'est pas le seul. Je crois que quand vous affrontez à une course, ça ne remonte pas nécessairement à la guerre. Je pense plutôt que ce qui est au cœur, c'est, à mon avis, trois choses, si vous voulez. C'est une sorte d'excitation de la mise en jeu de soi. C'est une forme de fébrilité de l'activité avec les sensations qu'elle procure. Deuxièmement, je crois qu'effectivement, c'est l'affrontement, c'est le défi, c'est le fait de jouer contre l'autre, mais sans que cela, me semble-t-il, renvoie nécessairement à une situation de guerre. Et la troisième partie, j'en ai un petit peu parlé, votre question me montre que j'aurais dû en parler davantage. Le troisième point, c'est que le plaisir pris, il est aussi dans le contrôle. Vous voyez ? D'un côté, c'est du non-contrôle, c'est de l'affrontement et de l'inattendu, et de la sensation qui surgit au fond au moment où on ne l'attend pas. Deuxièmement, c'est de l'affrontement, bien entendu, et de l'excitation à l'égard de l'affrontement. Et troisièmement, c'est le sentiment que vous pouvez contrôler, c'est que vous êtes maître quelque part de ça. Et dans le public, je crois qu'un des plaisirs, il est pris aux deux et aux trois. Il est pris à la fois dans le fait qu'on voit des gens qui sont dans une effervescence débridée, on voit des gens qui s'affrontent dans un processus dans certains cas très visible et donc très séduisant. Et troisièmement, on voit des gens qui se contrôlent. Et le jeu entre le non-contrôle et le contrôle fait partie, à mon avis, de l'excitation du spectateur. C'est très sensible, cela, au niveau de la technique, quand on voit comment la technique cède, comment, finalement, celui qui est censé maîtriser la machine ne parvient pas à la maîtriser. Voyez. Alors, maintenant, si je rentre davantage dans votre question et que je pose plus au cœur, si vous voulez, le problème de la guerre. Bon, bien sûr, je crois que l'origine guerrière, la référence guerrière ne peut pas être totalement niée ou négligée. On voit comment, par exemple, dans l'histoire des jeux nobles, on passe vraiment de situations de jeu qui sont quasiment mimétiques avec des situations de guerre à des situations qui vont de plus en plus mimer la situation de guerre, mais qui restent indirectement lié à la situation de guerre. On voit aussi comment on peut, dans une certaine mesure, renvoyer un affrontement de deux équipes de rugby à quelque chose qui peut ressembler à un affrontement de deux armées, avec en plus, comme certains l'ont superbement montré, des avants qui pourraient ressembler à la torture romaine, et puis des trois quarts centres et des arrières qui ressembleraient plutôt à ceux qui viennent alimenter, en quelque sorte, les gens qui sont devant. Bon. Incontestablement, cette référence peut être faite. Mais ce qui, moi, m'intéresse beaucoup dans cette affaire, c'est contrairement à ce que certains pensent, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le fait que d'un côté, l'excitation est présente, et d'un autre côté, l'histoire du sport, vous savez, je ne suis vraiment pas le premier à le montrer, Norbert Elias l'a fait magistralement et bien avant moi, mais d'un autre côté, je reviens à ma phrase, l'histoire du sport montre que un des enjeux tient au contrôle de plus en plus précis et exigeant exercé à l'égard de ce qui, précisément, est de l'ordre de la violence. Je donnais l'exemple du rugby. Si vous travaillez sur l'histoire des règlements de rugby, vous voyez d'une façon qui est une sorte de démonstration faite par une preuve par neuf, si vous voulez. Vous voyez à quel point le règlement est construit pour progressivement édulcorer la violence, euphémiser la violence, tout en laissant, bien sûr, une certaine issue à cette violence. Mais entre le rugby pratiqué en 1970 et le rugby pratiqué en 2002, outre les différences techniques évidentes, il y a des différences qui sont liées à une histoire du règlement et qui a contraint les joueurs à ne pas se livrer à certains gestes en les obligeant finalement à différencier un certain nombre de situations techniques. La mêlée, c'est ça. La mêlée, à l'origine, c'est une sorte de confusion massive entre les joueurs où tous les coups sont permis. La mêlée, aujourd'hui, et sans doute l'histoire n'est pas terminée, c'est un lieu où, au contraire, l'affrontement est extrêmement réglé, avec une différenciation qui est faite au niveau de chaque joueur, en spécialisant chaque joueur.
Oui, il y a deux aspects que vous n'avez peut-être pas assez développés. C'est d'une part le sport en tant que révélateur du caractère national ou culturel. Je n'en citerai qu'un exemple, les jeux celtes de force, qu'on dit les jeux écossais, par exemple. L'autre aspect, c'est tout de même, est-ce que le sport, qui est révélateur de la société, n'est pas aussi un révélateur de la décadence de la société? Quand on voit l'évolution des jeux mis en image par la télévision, de plus en plus violent, on pense au jeu du cirque romain et qui a été un révélateur de la décadence romaine. Donc, est-ce que ça n'est pas aussi lié à la mondialisation? Quand on voit un sportif de nationalité coréenne, on découvre qu'il était l'une des vedettes d'une équipe italienne et qu'on l'a menacé de le chasser parce qu'il avait battu l'Italie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une dérive ultra-libérale du sport dans le monde qu'on pourrait lier à la mondialisation économique, par exemple?
Oui, alors dans votre question, il y en a en fait deux. La première, elle porte sur les références nationales. C'est vrai que, à la fois, vous avez un phénomène de planétarisation des pratiques, dont le football est un excellent exemple, et en même temps, vous avez un exemple de résistance, au fond, de repères nationaux, dont le baseball en Amérique est un excellent exemple. Baseball qui a été, en quelque sorte, légué à la société japonaise et qui en fait un de ses sports privilégiés. Donc, il y a incontestablement dans les pratiques du repère national. Mais ce qui est frappant dans le sport, et votre seconde question en fait nous y conduit, ce qui est frappant dans le sport, c'est plutôt un phénomène de planétarisation et de mondialisation, avec une uniformisation des règles. Et je crois qu'il est tout à fait caractéristique de nos sociétés, bien entendu. Alors, la question à ce moment-là, votre première question, elle se pose autrement, me semble-t-il, et elle consiste à se demander comment un certain nombre de pays, au sein d'une pratique qui serait plutôt unifiée, continuent de disposer de repères qui sont nationaux. Comment, par exemple, il y a un football qui est un football brésilien et qui n'est pas le football italien ou le football allemand. Vous voyez, on peut se poser ce type de questions. Je crois qu'elles méritent d'être posées. Quant à votre deuxième question, il y a une chose que personnellement j'ai toujours du mal, je sais bien qu'on peut contester ce genre d'attitude, mais moi j'ai toujours du mal à l'adopter, c'est celle qui consiste à se vivre comme décadent ou comme perdant de la richesse qui existait auparavant. J'ai du mal personnellement à me situer comme ça, non pas que je trouve que nous vivions dans une société idéale, ce serait ridicule également de dire les choses ainsi. Mais je suis toujours frappé par, quand je travaillais avec passion sur le 19e siècle, je suis toujours frappé par la façon dont le 19e siècle était obsédé par l'idée de la dégénérescence. Et comment finalement cette notion de dégénérescence, c'était l'envers d'une société qui tentait d'organiser du progrès. Alors, rien ne prouve qu'il y ait réellement du progrès qui a été organisé au 19e, c'est beaucoup plus compliqué, bien entendu. Mais en même temps, rien ne prouve que la société du 19e est dégénérée. Rien ne prouve que nos sociétés nécessairement dégénèrent, si vous voulez. Ça, moi, j'aurais du mal, je ne vous cache pas. Je ne vous demande pas, je ne vais pas me mettre à vous demander de m'excuser. Bon, mais j'ai du mal à penser des choses ainsi, d'autant que je trouve que ce qui est important, c'est plutôt de réfléchir à partir des sciences humaines, et donc à essayer de dire et de voir comment les choses se passent, plutôt que de réfléchir en termes de morale, si vous voulez, même si on ne peut pas se passer, à mon sens, de la morale. Alors, cela dit, Dans votre deuxième question, bien sûr, personnellement, je suis d'accord avec ce que vous dites sur la mondialisation. Oui, bien sûr. Le sport est un exemple, là encore, peut-être ne l'ai-je pas suffisamment dit, est un exemple particulièrement sensible des phénomènes de mondialisation. Un très beau livre vient d'être écrit aujourd'hui sur le football par Pascal Boniface, La Terre est ronde comme un ballon, où il montre merveilleusement comment les clubs sont traversés par des forces qui sont celles de d'avantages financiers liés à des groupes totalement transnationaux, au détriment, bien sûr, parfois, de la constitution des équipes nationales elles-mêmes. Donc, ça, c'est incontestable. Mais j'hésite toujours sur cette idée de nécessaire décadence, même si je m'inquiète. Alors, si vous me poussez, puisque vous le faites, je vais quand même essayer d'aller dans ce sens aussi. Si vous me poussez, je reconnais personnellement que je ne suis pas très certain que les repères écologiques de la planète soient les mieux possibles, etc. Vous voyez. En revanche, je trouve qu'il y a beaucoup de paradoxes que l'on a tendance à oublier, entre autres le fait que la société ancienne est une société beaucoup plus violente que la nôtre, par exemple. Et que précisément, parce que nous sommes sensibles à la violence, nous avons le sentiment qu'elle monte. Oui, c'est très compliqué, ça. Bon, moi, je suis plutôt sur des raisonnements de ce genre.
Bonjour. Donc, je vais rebondir un petit peu sur vos propos. Mes propos sont également à relativiser. Donc, il a certes le mythe du sport, comme vous nous l'avez bien exposé, mais le sport n'est-il pas façonné également par la société ? C'est-à-dire que, comme le rappelait quelqu'un dans la salle, l'histoire du sport, c'est la militarisation, comme par Baden-Powell, l'ère industrielle avec la compétition, l'économie qui est rentrée dans le sport. Bon, bien sûr, je fais juste des points et il faudrait développer. Et donc, je suis en thèse sur sport et développement durable. Et justement, je m'interroge, le développement durable, il est né de quelque chose qui est extérieur au sport et le CIO a créé son propre agenda. Donc là, il n'y a pas simplement le sport comme mythe du sport, mais le sport apparaîtrait également comme être insufflé par la société.
Alors écoutez, bonjour. Bonjour. Je suis très très sensible à votre question, mais je crois en fait, je crois y avoir en partie répondu. Alors, si vous reprenez la manière dont je définissais la contre-société, je disais, notre société projette un idéal qui vient de notre société. Vous voyez, c'est cet idéal sportif, ça vient de nous, qui vient de notre société, mais que la société se révèle précisément incapable de réaliser elle-même, la démocratie, etc. Ne nous étonnons pas, effectivement, de retrouver dans la contre-société ce que nous y avons mis. En revanche, soyons prudents quand nous faisons de l'histoire, parce que lorsque vous me dites la militarisation, Baden-Powell, relisons des gens comme de Coubertin. Alors ne mythisons pas de Coubertin, bien entendu. Disons pas que c'est le grand penseur du 19e siècle et du 20e siècle. Ne mythisons pas. Mais de Coubertin est quelqu'un qui s'est précisément opposé aux pratiques de militarisation. Le grand combat d'un certain nombre de sportifs va contre la gymnastique militaire de la fin du XIXe siècle et va contre la manière dont un certain nombre d'innovateurs pédagogiques tirent les systématisations militaires vers leur pratique. Voyez. Donc là, le sport s'inscrit comme, au contraire, une volonté de promouvoir quelque chose qui est de l'ordre de l'individu au détriment de dispositifs collectifs qui, à la fin du XIXe siècle, pour les raisons que l'on connaît, avait tendance à être militarisé.
J'aurais aimé que vous auriez insisté davantage sur la différence entre sport de masse commercialisé et activité physique libre. Je voudrais simplement rappeler que le sport de masse commercialisé est de plus en plus appartient au domaine des affaires dans le double sens, des affaires commerciales d'un côté et des affaires criminelles de l'autre. Je donnerai un seul exemple. Les deux derniers numéro 1 de l'Association internationale de football ont eu le comportement avéré de gangsters internationaux. Numéro 2, j'aurais quelque chose qui
m'a manqué, je le dis comme ça, sans la moindre méchanceté, que le sport commercial de masse actuelle comme activité anti-médicale. Je fais simplement allusion au dopage défigure le sport et toutes les activités qui s'y réfèrent. Voilà.
Boris, merci. Moi, je suis très sensible à ta question. Je suis surpris que tu me vouvoies. Je suis très, très sensible à ta question. Mais je crois quand même avoir insisté sur le problème des dérives. Alors, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup développé. Je crois avoir insisté sur le risque fort de dérives, sur le fait que ces dérives sont là. Si on prend l'exemple du dopage, on voit à quel point il ne concerne pas seulement les pratiquants de haut niveau, mais il commence aussi à concerner les autres. Un certain nombre de procès ont révélé des pratiques chez les sportifs amateurs. Un certain nombre d'entraîneurs se plaignent de voir rôder autour de leurs athlètes jeunes, 15-16 ans, des gens qui tentent de faire circuler des produits interdits. Donc manifestement, il y a là un phénomène qui atteint la pratique dans une dimension qui n'est pas seulement une dimension confinée. Ça, c'est absolument incontestable. Alors, reste que, c'est là moi ma question, reste que ces pratiques de dérive qui doivent absolument, enfin, doivent absolument non seulement être combattues, mais être mises en évidence, être discutées et être absolument ostracisées. Au-delà de cela, sur les 10 millions de licenciés dont je parlais tout à l'heure, je trouve que tous ne sont pas saisis par ce genre de problème. C'est ça qui est compliqué. C'est que les sportifs de haut niveau, comme je disais à l'instant, ils sont 5-6 000. Les gens qui sont concernés par le dopage sont évidemment bien au-delà de 5-6 000. C'est tout à fait une évidence. Et nombreux, comme les amateurs, j'y reviens. Bon, mais il n'y a pas les 10 millions. Alors, la question qui se pose, c'est comment ces 10 millions réagissent-ils aux exemples qui mettent précisément au cœur d'un certain nombre de pratiques les fameuses affaires dont tu parles? Comment réagissent-ils à ces... Là, une question aussi se pose. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas d'emblée assimiler les dérives évidentes, inquiétantes, dangereuses, insuffisamment, à mon avis, poursuivies. Là, il y a un problème. Le dopage est insuffisamment poursuivi, c'est clair. Et ça a un côté assez dramatique. Mais on ne peut pas assimiler cette question-là au fait que ça concerne les 10 millions de pratiquants. Moi, c'est ça ma question, tu vois. Alors, effectivement, il y a certaines pratiques, ça c'est une grande question aussi, il y a certaines pratiques qui sont plus atteintes que d'autres. Et je sais bien que quand je dis cela, je me soumets parfois à des réactions violentes du public, mais j'assume le fait de le dire. Certaines pratiques sont plus inquiétantes que d'autres. Le cyclisme en est un exemple. C'est une pratique qui, en fait, depuis longtemps, est une pratique de dopage. Depuis longtemps, les coureurs du Tour de France, évidemment, recourent à des produits. Je ne sais pas, à la limite, depuis le début du Tour de France, la cocaïne circule, même l'héroïne a été consommée dans les années 20, etc. Mais jamais comme aujourd'hui, cette pratique n'a été si importante. Jamais comme aujourd'hui, elle n'a été si industrialisée. C'est-à-dire que c'est vraiment une organisation qui traverse l'ensemble du dispositif de chaque équipe. Et du coup, je crois effectivement que ça atteint beaucoup plus les pratiquants que d'autres pratiques, pratiquants envisagés au sens large, dont les amateurs, dont sans doute les pratiques de jeunes. Et alors là, effectivement, je crois que des questions doivent être posées qui vont au cœur de la pratique d'ensemble. Mais quand on dit il y a certaines pratiques, et quand on dit pratique d'ensemble, je crois qu'on peut relever encore d'autres qui, moi, m'inquiètent. Je pense à la pratique de gymnastique, en particulier à la pratique de gymnastique féminine, à travers ce type d'entraînement sur lequel un certain nombre de livres ont été écrits, en particulier un très beau livre écrit par Jacques Personne, sur l'entraînement sportif intensif précoce, l'ESIP, où on voit très bien comment les pratiques de gymnastes des filles jeunes sont des pratiques inquiétantes, à la fois parce qu'elles ont tendance, pour des raisons d'efficacité, à entretenir ces jeunes filles dans une situation prépubère ou dans des situations de petite taille, etc. On voit comment aussi elles sont relativement dangereuses physiquement. Donc, ce n'est pas seulement le dopage, là. C'est la pratique au sens large. Les blessures, les fractures, etc. Et on voit comment aussi l'intensité même de l'entraînement est, à mon sens, relativement inquiétante. Donc, je crois que, pour essayer de répondre cette fois plus précisément à ta question, je crois que d'un côté, il y a des pratiques de haut niveau qui sont inquiétantes, et d'un autre côté, certaines d'entre elles, de ces pratiques, ont tendance à toucher, effectivement, spécifiquement, des pratiquants. Le cyclisme et la gymnastique me paraissant effectivement deux exemples sur lesquels, je crois, il faut se pencher.
Georges Vigarello, merci beaucoup.